Alors, on reviendra sur différentes choses, mais peut-être que maintenant, on peut donner la parole à Gilles Clément, paysagiste. Alors, c'est étrange, nous sommes chez un paysagiste, et voici un autre type de paysagiste, un paysagiste jardinier, dont on connaît les travaux, les réalisations et les préoccupations également théoriques sur la question, par exemple, du tiers paysage ou du jardin en mouvement.
Alors, moi, je ne suis évidemment pas du tout un spécialiste ni de la peinture, bien sûr, ni de Monet, mais si Monet m'intéresse, peut-être plus que d'autres artistes, c'est pour trois raisons. Alors, Marianne vient de le dire, je suis paysagiste, mais je suis paysagiste tel qu'on l'entend aujourd'hui. Et Monet était paysagiste. D'ailleurs, ça l'imprégnait, peignait son atelier, c'était bien à l'extérieur, et il en avait même un peu assez, à un moment donné, de faire ça et de se considérer comme paysagiste. Enfin, c'est tout de même ce qu'il faisait d'une façon très particulière d'ailleurs, parce que le paysage qu'il restituait n'était pas du tout le paysage que restituaient d'autres paysagistes avant lui. Dans l'histoire du paysage, effectivement, les paysagistes, d'abord, c'était toujours des peintres. C'était le terme de paysagiste tel que nous le pratiquons aujourd'hui. Ils sont des gens qui, comme moi, travaillent sur l'espace public et font des aménagements de paysages. C'est très récent. Ça naît au début du XXe siècle et même plutôt dans les années 40. Donc, c'est finalement vraiment très récent. Avant, c'était des peintres. Les premiers paysages représentés avec une certaine distance, une certaine objectivité, avec un regard un peu naturaliste, je reviens à ce qu'on disait hier soir, eh bien, c'est pas très ancien non plus, mais enfin, c'est vers le XVIIe siècle, on voit apparaître. Mais c'est des paysages qui sont dans le fond de scènes, qui sont bien en avant, on ne parle pas de ces paysages vraiment directement, mais on les met quand même dans le fond. Et ils apparaissent comme un décor essentiel, et en même temps, c'est pas sur eux qu'on pointe. Et toute l'aventure du paysage avant Poussin, il se passe rien véritablement du point de vue des paysages. Avec lui, on rentre dans quelque chose, mais avec Monet, et c'est le deuxième point qui, moi, me fascine complètement, on rentre dans le paysage. Je veux dire, on est en situation d'immersion. Alors, est-ce que c'est ce travail-là de l'impressionnisme ? Est-ce que c'est la décomposition des couleurs qui lui a été tant reprochée ? C'est que c'est ce morcellement, cette manière de... Mais pas complètement. Lui, il était déjà dedans. Sinon, il ne nous aurait pas restitué cette question de nous trouver dans l'état d'immersion. D'ailleurs, ici, on est dedans. Là encore, il a mis en scène cette affaire-là d'une façon très forte. Mais je trouve que même quand on regarde un tableau de paysage de Monet, quelquefois aussi d'autres choses que des paysages, mais enfin bon, plutôt on est en situation d'immersion. Le mot est important pour moi. Il est très important, précisément parce que il traduit un moment, il anticipe sur une situation qui est actuelle, où nous cessons de considérer la nature qui se trouve à distance de nous comme quelque chose qui nous environne. Le mot environnement est une catastrophe. Vous voyez, ça veut dire que, en gros, ces choses-là traînent autour de nous, aux environs de nous, donc nous ne sommes pas concernés. C'est encore une façon naturaliste et distante de considérer la nature, comme si ce n'était pas nous. Nous sommes des êtres de nature. Et le fait qu'il nous ait mis, nous, spectateurs, en situation d'immersion, bien avant que nous en parlions d'un autre point de vue, qui est celui de l'écologie, qui est un point de vue scientifique, c'est étrange, mais ce n'est pas complètement extraordinaire quand on considère la question même de la question générale de l'art. Les artistes, ils anticipent, ils sont des... Je ne sais pas, il avait pas de raison d'avoir des notions d'écologie. C'est évidemment pas ce qu'il voulait dire du tout. Il était juste en train de nous restituer la vibration de ces choses qui étaient la rencontre des êtres vivants et des humains à l'intérieur de ça. D'ailleurs, il y a des tableaux qui montrent les humains dedans, qui sont célèbres. On est complètement dans... Or, aujourd'hui, et c'est un autre point de vue qui est celui du paysagiste qui regarde les êtres vivants en tant que nature, eh bien, on s'aperçoit qu'on ne peut plus considérer ces êtres-là comme des choses qui sont indépendantes de nous et que nous maîtriserions. Non. Nous dépendons de la diversité, c'est une affaire certaine, mais parce que nous en dépendons, nous devons donc y prendre grand soin. Mais on s'aperçoit aussi, et ça c'est un grand bouleversement de la finitude écologique, c'est le milieu du XXe siècle, hein. C'est après la mort de Monet que, ma foi, on est dans un état de responsabilité absolue sur ce vivant, et on doit considérer les autres êtres vivants presque en équivalence à nous. On est en situation mentale d'immersion, c'est incroyable. Et aussi de responsabilité parce que nous sommes un peu les gardiens de ce vivant, puisque nous agissons beaucoup sur lui. Donc ça me touche aussi à ce niveau-là. Et enfin, le troisième niveau qui est plus personnel, c'est le fait que Monet soit venu là où je suis quasiment né, puisqu'il est venu dans la Creuse. Je suis venu pas très loin, une vingtaine de kilomètres de l'endroit qu'il a peint. Il n'a pas peint exactement la commune sur le relief dramatisé de cette Creuse qui traverse le granit à Crozant, où il aurait voulu. C'est là que j'habite. Mais il était chez son ami Rollina à Fresline, un peu plus loin. C'était en 1889, donc il y a un petit moment. Et justement, il disait quelque chose de très curieux qui, pour moi qui suis jardinier, n'a pas de sens. Il disait que c'était des côtes sauvages. C'est des côtes sauvages pour les gens qui regardaient les paysages à cette époque-là. Mais ce n'était pas du tout des côtes sauvages, c'était des côtes de bruyère. Et la bruyère rose. Il venait peindre ces couleurs qui ne sont pas du vert. Les deux roses un peu pourprées, un peu claires de la bruyère. Il y a deux espèces de bruyère, principalement sur ces sols acides, et des fougères. Ocre à l'automne. Donc, on est peu dans le vert. Hein. On est dans le bleu ou dans l'ocre, ou dans plein de choses comme ça. Et bon, mais c'était des paysages maîtrisés d'une certaine façon. Et il restait avec ces couleurs-là par la présence de la bruyère, parce qu'il y avait des animaux qui venaient pâturer. Quand je suis né, enfin quand j'étais très petit, j'ai vu ces côtes de bruyère. J'ai vu les paysages que Monet a peints et qui sont dans ma mémoire profondément parce que c'est d'une extraordinaire beauté, effectivement. Il n'existe plus du tout. Parce qu'il y a la déprise agricole, parce que les pâturages sont tout à fait ailleurs, dans un endroit où les animaux s'engraissent beaucoup plus vite. Ce n'est plus les mêmes bêtes, il n'y a plus les moutons, les chèvres et même des vaches. J'avais vu des vaches qui marchaient comme des dahus, hein, des vaches acrobates dans ces endroits très en pente, où les machines ne viennent plus, où les gens ne viennent plus et qui sont devenus des forêts, précisément parce que les arbres ont pu pousser à la place de ces landes. Donc les paysages ont changé, ça n'était pas des paysages sauvages, mais c'était vu comme tel. Et ce que je crois qu'il appréciait peut-être plus que la sauvagerie, c'était l'extraordinaire beauté et l'accroche de la lumière sur cette beauté. Il était d'ailleurs fâché avec ça parce que l'eau de la Creuse changeait de couleur. C'est vrai que ça change. Il suffit d'une pluie, il suffit d'une petite chaleur et l'eutrophisation, la remontée des algues unicellulaires, des choses. Ça change la couleur de l'eau. Alors, ça le troublait considérablement et il explique à quel point il est mécontent de son travail qui, bon, évidemment, nous dirions est parfait, quoi, est merveilleux, mais c'était pas ce qu'il pensait. Donc je suis touché pour la troisième raison, donc pour ça. Et à part ça, je pense à une autre question qui est hors de mon champ professionnel. Pour moi, c'est une sensualité folle. C'est à la limite de l'érotisme, la question de la façon dont il nous restitue presque tout. Et il y avait un regard sensuel. Enfin, je ne sais pas, il suffit de se mettre devant n'importe quelle de ces toiles pour le comprendre, je crois. Et même par rapport à la matière, la robe de Camille, la robe verte, c'est une chose incroyable. Je ne dis pas de précision, parce que ce n'est pas la question, c'est de sensualité. Donc ce sont ces choses-là qui me touche, c'est ce peintre-là, et dont on parle finalement, c'est vrai, peu, même dans notre métier, on n'en parle pas beaucoup.
Par rapport à la question de l'immersion, il y avait une chose très étrange, un effet qui était produit par les visiteurs de Monet dans le grand atelier pendant toutes ces années où Monet peint ses grands panneaux. Alors il y a un mystère autour de ça parce que les gens en entendent parler, c'est la guerre en même temps, ils commencent à peindre, ils se jettent dans cette grande entreprise en 1914, au moment où la guerre va être déclarée. Il fait construire ce troisième atelier, très grand atelier, qui est aujourd'hui l'endroit par où on entre à Giverny et où on achète les cartes postales et les produits dérivés. Et donc, il a des visiteurs, parce qu'il est quand même extrêmement célèbre. Il a des marchands qui viennent le voir. Il y a des peintres qui viennent le voir, Matisse, Bonnard, Vuillard. Et ils sont tous stupéfaits par ce qu'ils voient, parce que Monet, évidemment, déplie les panneaux. Alors, à l'époque, il n'en est pas encore à imaginer, évidemment, quelque chose comme l'orangerie, mais il met les tableaux tout autour. Et plusieurs visiteurs disent que c'est un malaise. C'est à la fois fascinant, mais on a une impression de malaise parce qu'on est comme dans l'eau. C'est-à-dire que les visiteurs ressentent d'une manière très, très, très puissante cette immersion dont vous parlez, Gilles Clément. À propos de la Creuse, puisque cette fameuse épopée de la Creuse a été pour Monet vécue comme une catastrophe absolue, avec la Creuse qui montait, qui descendait selon les intempéries, et puis le temps qui passait, et à la fin le printemps qui arrivait alors qu'il avait commencé ses toiles dans une période qui était pré-printanière. Je ne sais pas ce qu'un paysagiste comme vous peut penser de cette atteinte de Monet au paysage, puisque cette campagne catastrophique se termine par... Il donne de l'argent à un propriétaire d'un bout de terrain avec un arbre au bord de la Creuse. Il achète au propriétaire le droit de défeuiller le chêne. Il y a deux paysans qui descendent dans ce que Monet appelait le ravin, au bord de la Creuse, avec des échelles, et qui défeuillent un chêne. Je ne sais pas ce qu'un paysagiste comme vous peut dire de ça.
Ils sont gentils, les chênes. Ils ont la capacité à perdre leurs feuilles quand quelque chose ne leur convient pas dans l'environnement. Vous savez, quand il y a eu l'année de la sécheresse, il n'y a pas très longtemps, c'est un feuillu, le chêne. Il a donc, c'est un caduc, il a réagi, les chênes ont réagi immédiatement, enfin, pas tout à fait immédiatement, mais assez rapidement, en perdant leurs feuilles. Et puis, dès qu'il y a eu les pluies, c'est-à-dire quelques mois plus tard, eh bien, ils sont repoussés. Ce n'était pas le cas des persistants. Et ceux qui ont planté des résineux dans ce paysage extraordinaire de feuillus qui changent de couleur tout le temps, les ont perdus justement dans cette période-là. Alors, arracher les feuilles d'un arbre qui est en pleine vitalité, oui, c'est vraiment une manière de mettre à nu qui est un peu violente. C'est la machine énergétique qui disparaît. Mais dans ce cas-là, encore une fois, l'arbre se dit, bon, ben je vais... Parce que c'est une machine intelligente au sens biologique du terme. Je vais me trouver une solution qui est une parade. Et il arrête son fonctionnement physiologique. C'est forcément ce qui a dû se passer avec le chêne de Monet. Et il a dû refaire ses feuilles un petit peu plus tard quand le peintre avait fini.
Oui, c'est... L'histoire se termine bien, en fait. Il a pardonné à Monet. C'était pour la bonne cause. Dernière chose à propos des couleurs que vous évoquez, qui sont celles de la Creuse. On comprend mieux quand vous parlez de la bruyère, parce que quand on va, effectivement, aujourd'hui, dans cette région-là, on ne la voit pas, la bruyère. Et donc, je me suis posé des questions sur ces extraordinaires toiles de la Creuse, où on voit des parois comme ça, des versants de la Creuse, où court une espèce de vibration rose, violette, avec des tons tout à fait étonnants. Et je me disais, est-ce que c'est l'exaltation, la tension qui habitait Monet, qui lui faisait voir aussi ses couleurs, parce que ça, c'est possible, ou est-ce qu'elles ont vraiment existé ? Donc, elles existaient. D'une certaine façon, elles existaient.
Oui, d'ailleurs, on peut encore aujourd'hui vérifier sur des landes climatiques, c'est-à-dire des systèmes relictuels ou tout petits qui n'évolueront que très très peu, où les landes sont stabilisées du fait même que les arbres ne peuvent pas pousser parce qu'on est sur un sol squelettique bien trop maigre pour qu'ils s'installent. Et s'il y en a qui s'installent, eux-mêmes poussent très 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 lentement et les bruyères restent dessous. Donc on peut encore voir, mais en tout petit tâche dans ce paysage sur les roches, comment vivent ces bruyères. Puis dans un endroit près de Crozant, il y a le maintien artificiel d'une lande pour les touristes. Une lande à touristes, ça, c'est un... Alors on fait en sorte qu'elle ne se boise pas pour qu'on puisse comprendre quel était le paysage autrefois, mais partout.
Ça, c'est... Je pense que, Gilles Clément, vous auriez des choses à dire à Giverny. Ce n'est pas le propos ici, puisque nous parlons de la peinture et pas du jardinier. Mais le jardinier Monet, enfin justement sur la question de l'immersion, j'ai souvent regretté que Giverny aujourd'hui soit un lieu très bien entretenu, beau, etc., visitable, et où on voit un jardin, on voit des couleurs. Alors que certaines photos de l'époque de Monet montrent Monet enfoui dans les fleurs. C'était un jardin. Un jardin que les spécialistes, enfin Truffaut l'a visité par exemple, les spécialistes trouvaient que ce jardin était fou parce qu'il était monocolore et que les fleurs étaient immenses. Et donc Monet, là, réalisait dans son jardin non pas des expériences purement visuelles, mais des expériences aussi d'immersion.
Oui, sauf tout à fait aux abords de la maison où là il y avait un aspect franchement décoratif. Et un peu lourd, un peu Napoléon III. Enfin, là, ce n'est pas mon jardin. Non, pas, mais d'ailleurs, je préfère la façon dont il a peint son jardin que son propre jardin, même s'il y avait des choses très belles du point de vue de l'espace. Mais ce n'est pas ça. C'est ce qui nous restitue qui est fort et plus important, je trouve. Il aimait quand même ça. Ce n'était pas un jardinier au sens littéral, parce qu'il n'y allait peut-être pas avec ses mains dans la terre. Il faisait son métier, mais il aimait ça quand même.